L'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Bonjour à tous, je suis aujourd'hui en compagnie de Pierre Bourguet, qui est animateur du collectif local de l'éthique sur l'étiquette, et je l'ai invité parce que, évidemment, il y a sur le plan national une proposition de loi qui intéresse beaucoup ce collectif qui a travaillé longuement à faire sortir ce texte avec d'autres ONG sur la responsabilité, le devoir de vigilance des multinationales. Donc, nous allons vous parler bien sûr de cela, mais aussi parce que, justement, Pierre Bourguet doit être l'animateur du prochain Café Actualité du Centre Documentation Tiers-Monde, le mardi 13 décembre, et qu'il a proposé comme sujet « Multinationales, quelle responsabilité et quelle transparence ?» Et il sera accompagné pour ce faire de Claude Montange, qui fait partie du CCFD Terre Solidaire. Donc, Pierre, pourquoi, dans quelles circonstances se passe ce Café Actualité ?
Eh bien, c'est un contexte national intéressant et aussi international. Je vais y revenir. On va revenir surtout sur la proposition de loi, mais d'abord, je crois qu'il faut repositionner le problème qui concerne les multinationales, c'est-à-dire le problème de leur responsabilité. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que jusqu'à présent, les multinationales ne sont pas responsables de ce qui se passe tout au long de leur filière d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'en droit international, en droit des sociétés, c'est le concept de l'autonomie de la responsabilité qui prime. C'est-à-dire que chaque société, chaque entreprise est responsable de ses agissements. Donc, ce n'est pas possible de rendre automatiquement responsable la société mère
qui donne les ordres, oui.
Voilà, la donneuse d'ordre par rapport à ses filiales et ses sous-traitants en ce qui concerne les violations des droits humains au travail et les atteintes à l'environnement. Alors, il y a quand même une évolution, des évolutions, il y en a quand même plusieurs, on va les évoquer. Mais d'abord, il faut rappeler ce que c'est que la mondialisation. C'est une concurrence féroce, devenue presque terrible du fait de la libéralisation des échanges, le libre-échange érigé en dogme, hein, ce qui fait que Marx disait le libre-échange, c'est le renard libre dans le poulailler libre, c'est-à-dire que c'est la loi du plus fort. Voilà, donc ce libre-échange fait beaucoup de dégâts, et j'en profite pour dire que le collectif Éthique sur l'étiquette est opposé, avec bien d'autres ONG, au projet de traité TAFTA, hein, traité transatlantique, et nous sommes opposés aussi naturellement au projet CETA, enfin, qui doit être encore validé par les chefs d'État européens, mais et qui lierait la France, enfin la France et les pays européens, au Canada. Donc tous ces traités de libre-échange sont nocifs. Ils connaissent quelques déboires. On parle d'un recul de la mondialisation. Enfin, vous savez, les acteurs de la mondialisation, dont notamment les multinationales, on va les appeler les sociétés transnationales, eh bien, vont tout faire pour retourner les choses en leur faveur. Il faut... Voilà. Donc, l'ouverture des frontières, l'abaissement, la suppression des barrières tarifaires et non tarifaires, il faut insister sur cet aspect des choses, parce que les gens ne voient souvent que l'aspect abolition des barrières tarifaires. Les barrières non tarifaires, c'est tout ce qui... ce sont les normes techniques, les normes juridiques, tout ça, les normes sociales... les normes fiscales, tout ce qui peut permettre de limiter un petit peu les dérives de la loi du plus fort, eh bien, ces multinationales essayent de contourner ces réglementations, ces normes, ou de les pousser vers le bas. Et donc, c'est vraiment un danger, parce que ça pousse au dumping social, bien sûr, ça pousse au dumping fiscal, et ça pousse aux violations des droits humains et des droits à l'environnement. Donc, c'est très grave. Donc, vous voyez, par exemple, nous avions déjà en 2009, dans un rapport qui s'appelle « Pratiques d'approvisionnement de la grande distribution et les conditions de travail dans l'industrie de l'habillement », en 2009, nous avions déjà pointé du doigt dans ce rapport que la grande distribution au niveau du textile, c'est un commerce à flux tendu, avec des exigences en termes de prix, de délai, de qualité qui sont incompatibles avec des conditions de travail dignes, décentes. C'est-à-dire que la pression des donneuses d'ordre, donc des marques, sur les fournisseurs et les sous-traitants est telle, en termes de délai, de qualité et de prix, que ceux-ci doivent imposer des cadences infernales, des conditions de travail épouvantables, etc.
Donc, bien vu que ça a été mis en lumière par la catastrophe du Rana Plaza.
Absolument. Cette catastrophe n'est pas venue par hasard. Les bâtiments étaient vétustes, les conditions de sécurité n'étaient pas réunies, etc., etc. Donc tout se liguait pour qu'effectivement une catastrophe de ce type arrive. Et je rappelle qu'elle a fait quand même 138 victimes en avril 2013 et qu'elle a aussi, par contre-coup, a eu un effet un peu positif, c'est-à-dire qu'elle a remis un peu à l'ordre du jour cette régulation des multinationales qui est absolument impérative, parce que on peut pas continuer comme ça cette course au moins-disant social, au moins-disant fiscal. C'est une catastrophe. Cette étude avait également mis en exergue le fait que les grandes marques faisaient 10 à 15% d'économie sur les conditions d'approvisionnement en textile, et que donc la conséquence, c'était que finalement les coûts de production étaient abaissés, étaient réduits, et la part du salaire ne comptait que pour 2 à 5% du prix d'un jean. Donc quand vous achetez un jean, sachez que 40% part à la marque, hein, c'est la marge de la marque. Le détaillant, lui, prend aussi 40 à 45%. Et puis après, il reste 5% du prix du transport et 10% pour les coûts de production. Donc quand on tire tout ça, quand on tire les prix au maximum, eh bien les salaires et les conditions de travail sont impactés, et c'est très grave pour les travailleurs. Donc tout ceci a bien montré que on ne peut pas continuer comme ça. Or, malheureusement, ça continue. Donc, ça continue parce que nous sommes dans un système qu'on appelle la mondialisation néolibérale, qui est basé sur cette concurrence à tout craint, sur ce libre-échange, sur aussi la privatisation des services publics.
Alors, quand même, il y a eu plusieurs réglementations, plusieurs prises en charge de cette question par des organismes internationaux.
Oui, alors je vais y venir. Je rappelle juste quand même qu'il y a 80 000 sociétés transnationales dans le monde, 800 000 filiales, et dont dépendent des millions de PME. Et les sociétés transnationales représentent les deux tiers du commerce mondial. C'est un poids considérable dans l'économie maintenant. Ce sont les maîtres, les maîtresses, si on peut dire, de l'économie mondiale. Il faut savoir aussi que plus de la moitié des grandes entreprises allemandes, britanniques et françaises ont été mises en cause dans des atteintes présumées aux droits humains. Donc, on a affaire à des entreprises qui sont devenues extrêmement puissantes, qui pèsent d'un poids considérable dans l'économie mondiale et qui ne respectent pas les droits humains, dont les activités directes ou indirectes occasionne des violations aux droits humains et des dégâts à l'environnement. Donc, les catastrophes et les accidents sont déjà très importants. Il y a celui du Rana Plaza dont on a évoqué. Mais moi, je voudrais rappeler même ce qui s'est passé en 1911 dans une usine textile aux États-Unis. Eh bien, cet accident avait fait une centaine de victimes. Et ça a été à l'origine, on a commencé aux États-Unis à réguler un petit peu, à encadrer l'industrie textile. Donc, vous voyez que à un siècle d'écart, les problèmes sont les mêmes, mais que on apprend. Les multinationales tendent toujours à reproduire la même volonté d'accaparement et de profit maximum au détriment des travailleurs et des conditions de vie et de travail. Donc il faut vraiment avoir présent à l'esprit cette puissance, parce que sinon on passe à côté des problèmes. Donc alors venons-en aux efforts de régulation.
Oui, justement.
Ces efforts, déjà au niveau mondial, il faut noter que il y a quand même une organisation dans le monde qui est l'Organisation internationale du travail, qui dépend de l'ONU, contrairement à l'OMC d'ailleurs, qui n'est pas une agence de l'ONU, qui est une organisation internationale indépendante. L'OIT fait partie de l'Organisation des Nations Unies. Donc, elle engage toute la communauté internationale. Ben, l'OIT, qui a été créée en 1919, a produit un nombre important de conventions et de normes qui s'appliquent, qui devraient normalement s'appliquer. C'est le problème, justement, c'est que ces normes ne sont pas appliquées et que les multinationales
Les bafouent,
et qu'il faut donc tout faire pour que ces normes soient appliquées. Alors, si on voit ces conventions de manière de près, eh bien, ces conventions ont été condensées, synthétisées dans un document très important qui s'appelle la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, qui a été adoptée en 1998, donc c'est pas si vieux que ça, justement au moment où la mondialisation battait son plein. Ces principes et droits fondamentaux qui sont rappelés, c'est la liberté d'association, le droit de négociation collective, l'interdiction du travail forcé. Il faut rappeler que le travail forcé, il y a encore des millions de personnes qui sont considérées comme étant en situation de travail forcé. Hein, c'est 21 millions de personnes sont victimes encore aujourd'hui de travail forcé. Bon, l'abolition du travail des enfants. Il faut rappeler là aussi qu'il y a encore, selon les estimations de l'OIT, 168 millions d'enfants qui sont au travail, dont 85 dans des travaux dangereux, dans des mines ou autres. Enfin, c'est absolument scandaleux. Plus de 2 millions de personnes meurent chaque année d'accidents ou de maladies professionnelles. Enfin, on pourrait... Et les trois quarts de la population mondiale ne bénéficient pas d'une protection sociale adéquate et effective. Donc, c'est quand même... On a des situations mondiales dramatiques. Donc, liberté d'association, droit de négociation collective, interdiction du travail forcé, abolition du travail des enfants, la non-discrimination en matière d'emploi, à quoi s'ajoute la possibilité d'emploi et de rémunération, donc le droit au travail finalement, le droit à la santé et à la sécurité au travail, la protection et la sécurité sociale, le respect d'un salaire minimum et le respect de la durée maximale de travail. Voilà. Donc, ces principes et ces droits sont également traduits, enfin, ou énoncés dans d'autres textes, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été adoptée par l'ONU en 1948, et aussi dans un document qui est moins connu, qui est le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l'ONU en 1966. Ce pacte, effectivement...
Oui, 48, 66, 98, voilà un petit peu les jalons
oui,
de ce que vous dites.
Voilà, il y en a d'autres. Il y a aussi, en 2011, l'ONU a adopté des principes directeurs relatifs aux États et aux entreprises, c'est-à-dire l'obligation pour les États de respecter les droits de l'homme, pour les États et les entreprises, de respecter les droits de l'homme faire en sorte que les victimes puissent avoir un droit à réparation effective. Voilà. Donc, ces principes, qui datent donc de 2011, c'est pas bien vieux, lancent la notion... promeuvent la notion de diligence raisonnable. Alors, traduction en français, on traduit plutôt par le devoir de vigilance. Les entreprises ont un devoir de vigilance dans toute leur chaîne d'approvisionnement. Et c'est là qu'on peut maintenant se baser pour agir de manière concrète. Parce que je voudrais quand même dire que on dit, mais il y a d'autres voies d'action, les actions volontaires, par exemple, type responsabilité sociale des entreprises, code de conduite, charte éthique, label fair trade ou autre. Eh bien, malheureusement, l'expérience montre que c'est très insuffisant. C'est très insuffisant et qu'en plus, on ne peut pas être juge et partie. Donc, les entreprises qui fondent la responsabilité sociale des entreprises sont tout à fait légitimes et bienvenues. Mais le problème, c'est que généralement, c'est souvent lacunaire, c'est souvent limité à certains domaines et ça n'est pas complet. L'ensemble des parties prenantes d'une entreprise, ONG, syndicats et autres, ne sont souvent pas parties prenantes dans l'affaire de cette responsabilité sociale.
Alors, avant de développer ce devoir de vigilance, nous allons écouter la musique que vous avez apportée. Il s'agit de quelle musique ?
Musique sénégalaise.
Oui, alors il était question donc du devoir de vigilance que doivent observer ces multinationales et il se passe en ce moment un pas intéressant qui vient d'être fait en France. Après oui. 3 ans de débat, la France pourrait être le premier pays au monde à tirer des conséquences législatives du drame de Rana Plaza.
Oui, alors justement, ce drame du Rana Plaza a commencé à faire en sorte qu'en France, on se bouge un petit peu au niveau du Parlement, au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau des ONG qui ont été déjà mobilisées. Mais on a réussi à sensibiliser un certain nombre de parlementaires, très peu nombreux, 4 pour tout dire, mais qui ont... On a fait un colloque à Paris en 2012, fin 2012, déjà voyant avant même l'accident du Rana Plaza. Et en avril 2013, il y a eu cet accident. Et là, les députés ont œuvré pour préparer un projet de loi, une proposition de loi, qui a été déposée en novembre 2013 à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, au moment où on en parlait à la quinzaine Tiers-Monde, on avait fait, rappelez-vous, un colloque sur la responsabilité sociale des entreprises et on avait commencé à évoquer cette proposition de loi. Alors, cette proposition de loi a connu un certain nombre de déboires, enfin, mais elle a fini quand même par... Il y a eu des blocages, il y a eu naturellement l'opposition du Sénat. Elle a fini par être adoptée et c'est très récent, c'est le 29 novembre dernier, donc il y a quelques jours. Alors, ce n'est pas une adoption définitive, celle-ci devrait intervenir normalement, si tout va bien,
avant
la fin de la législature, c'est-à-dire fin février 2017, et être adoptée donc avant la fin de cette législature. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, cette loi instaure l'obligation d'un plan de vigilance pour les entreprises. Alors, le problème, c'est que ça ne concerne pas toutes les entreprises, mais il faut des entreprises qui ont un certain nombre de salariés.
Au moins
5 000, voilà. Ce qui fait qu'on a calculé qu'entre 150 et 200 entreprises seulement seraient concernées. Alors, ce sont les grandes entreprises, mais... En France, bien sûr. Bon, c'est déjà quand même un premier pas. Elle instaure ce plan de vigilance...
comme une obligation.
Comme une obligation. Hein. Ce plan doit permettre d'identifier et de prévenir les risques liés à leurs activités, et cela tout au long de leur chaîne d'approvisionnement. Autrement dit, la responsabilité, donc, pourra être également envisagée
pour les sous-traitants, les
filiales et les sous-traitants. Oui. Donc c'est toute la chaîne qui est concernée, et ça c'est tout à fait ce que nous demandions pour mettre fin à cette impunité qui faisait que la société mère n'était pas responsable des agissements de ses filiales et sous-traitants. Donc ça c'est une excellente chose. Donc la responsabilité de l'entreprise pourra également être engagée en cas d'absence de plan. Donc, s'il n'y a pas de plan, on peut faire une action en justice.
Et dans des amendes pourront être prononcées.
Oui, alors, et voilà, absence de plan et ou insuffisance de celui-ci ou défaut dans sa mise en œuvre. Donc, ça laisse quand même des possibilités d'action au cas où on constaterait ces manquements. Donc, le plan de vigilance doit comprendre une cartographie des risques, une évaluation des sous-traitants et un dispositif de suivi. Donc, c'est quand même relativement précis et ça doit normalement entraîner un certain nombre d'améliorations, de rectifications, de prévention des dommages. C'est le but. C'est pas de pénaliser les entreprises. Le patronat pousse des cris d'orfraie dès qu'on commence à parler de réglementation. La question, c'est qu'il faut mettre fin à des abus, à des crimes. Ça suffit. Donc, et on le voit bien, les mesures purement volontaires ne suffisent pas, eh bien, il faut que la loi y pallie, et la loi est donc la justice. Parce que les victimes doivent pouvoir, les victimes ou leurs ayants droit, doivent avoir ce recours en justice, et c'est là où, effectivement, il y a possibilité de recours en justice, ce qui était faible jusqu'alors. Malgré, par exemple, la victoire qu'on a remportée avec le procès de Total dans l'affaire de l'Erika en 2012, ça a été une belle victoire, mais c'était une victoire un peu limitée. Là, nous avons un texte qui permet d'asseoir cette responsabilité juridique et ce recours des victimes. Donc, c'est quand même très important. Donc, le montant de l'amende, alors là aussi, bon, il n'est pas très élevé, il peut aller jusqu'à 30 millions d'euros, au lieu de 10 millions initialement prévus. Bon, 30 millions d'euros, ça paraît beaucoup, mais en réalité, si on voit le chiffre d'affaires des sociétés qui sont effectivement soumises à cette loi, ça concerne moins de 1% du chiffre d'affaires. Donc, c'est quand même pas une amende qui va les mettre au tapis. Voilà.
Voilà, alors donc, voilà une campagne qui a été bien menée, qui va sans doute aboutir, espérons-le, complètement, par cette loi enfin ratifiée par l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas vos seules campagnes.
Non, c'est-à-dire que nous avons des campagnes qui concernent le salaire vital. Et puis, nous avons une campagne qui continuera à concerner les Jeux, l'Euro de football et bientôt l'Euro de handball, puisqu'il y a un Euro de handball qui va avoir lieu en janvier prochain. Nous allons, à cet égard, faire un happening à Paris le 28... je crois que ça sera le 28 janvier, le jour de la finale, voilà, championnat du monde de handball en France. Hein,
alors, c'est pour dénoncer quoi ?
Eh bien, c'est pour dénoncer le fait que les grandes marques qui sont Nike, Adidas et Puma, les grandes marques dans les entreprises qui produisent les maillots et les baskets, etc., soient conscientes du fait qu'elles ne respectent pas les droits humains au travail, dans les chaînes d'approvisionnement, justement. C'est pareil dans le textile, c'est la même chose. Ces multinationales ne respectent pas les droits humains, et donc nous voulons les interpeller. Les gens qui nous écoutent peuvent envoyer un mail via le site éthiquesuretiquette.org aux trois PDG de Nike, Adidas et Puma pour demander la garantie d'un salaire vital pour les ouvriers de leur chaîne d'approvisionnement. Voilà. Donc on peut agir aussi en signant la pétition adressée au président de la République concernant le devoir de vigilance, et devoir de vigilance à propos de la loi, qui est la proposition de loi qui est encore à l'étude, et par rapport aussi au projet de traité contraignant à l'ONU, parce qu'il y a un projet de traité contraignant à l'ONU à l'égard des multinationales, projet justement qui a été un peu qui est la suite logique des principes directeurs de 2011 et qui est entrepris depuis 2014 à l'initiative de l'Équateur notamment, et pour lequel la France et l'Europe n'étaient pas très chaudes, et donc nous voulons faire en sorte que l'Union européenne et la France notamment prennent le leadership, ou en tout cas soutiennent fortement ce projet de traité qui risque, là encore, d'être torpillé par les États-Unis. Mais enfin, il faut tout faire pour au moins aboutir à un texte, et on verra ensuite.
Alors, le collectif de l'éthique sur l'étiquette, dans toutes ses actions, est aussi épaulé par d'autres associations. Je vois que pour la campagne dont on vient de parler, le devoir de vigilance, il y avait le CCF des Terres Solidaires, les Amis de la Terre, oui. Sherpa, et oui, puis oui. Les principaux syndicats.
Bien sûr. Oui, oui, non, on n'est pas seul dans ce combat, pour notamment la proposition de loi sur le devoir de vigilance. Il y a le Forum citoyen pour la RSE, il y a Sherpa, il y a d'autres ONG. Ce que je voudrais dire, c'est qu'au niveau local, nous avons constitué un collectif, un nouveau collectif, avec ATTAC, le collectif Roosevelt, le CCFD, qui est aussi membre d'éthique sur étiquette, mais enfin qui contribue à part entière, et Oxfam aussi. Pour la transparence et la responsabilité des multinationales. Nous avons écrit à tous les députés de l'Hérault, nous essayons, et aux sénateurs, on l'avait fait aussi avant, nous essayons de faire pression sur ces décideurs politiques pour qu'ils appuient notre démarche et qu'ils appuient et qu'ils votent le texte de la proposition de loi sur le devoir de vigilance des multinationales.
Bon, cette pétition est-elle
Elle est accessible sur Internet, sur le site d'éthique sur étiquette, d'ailleurs aussi du CCFD.
Donc, c'est de cela dont vous allez parler au prochain Café Actualité,
voilà.
Du CDTEP, du Centre Documentation Tiers-Monde.
Voilà, on va élargir aussi à la question de la transparence, c'est-à-dire de l'évasion. Derrière ça, il y a la question de l'évasion fiscale et de la fraude fiscale. On parlera de la loi Sapin 2, on parlera des lanceurs d'alerte. Je rappelle que le 12 décembre, il va y avoir le procès en appel d'Antoine Deltour, qui a été condamné la première fois, il y a quelques mois, dans le cadre de l'affaire LuxLeaks.
Oui, oui.
On soutient Antoine Deltour, bien entendu, et on pourra faire le point le 13 aussi de ce jugement qui va intervenir.
Donc, je rappelle que cela va se passer à l'espace Martin Luther King de 12 à 14 heures, 27 boulevard Louis Blanc. Vous présenterez peut-être un audiovisuel.
Oui, on va présenter La malédiction des ressources, qui est un document très intéressant sur le pillage des ressources naturelles par un certain nombre de multinationales. Il y a des exemples au Congo et également en Amérique latine.
Eh bien, merci Pierre Bourguet. À bientôt, chers auditeurs.